te prie pour toi. Seigneur, nous te prions maintenant pour Sean. Nous te prions de le bénir dans ce qu'il dira. Merci pour son travail, pour sa préparation, qu'il puisse parler vraiment de la part de ton Saint-Esprit et que nous-mêmes, nous puissions recevoir ces paroles comme venant de ta part, qu'il puisse nous apprendre toujours plus à mieux te connaître. Et merci pour sa prédication. Amen.
Amen.
Merci. Merci. Bonjour tout le monde, frères et sœurs. Aujourd'hui, on va continuer dans le livre de Philippiens et reprendre là où on s'est arrêté la dernière fois, c'est-à-dire au chapitre 2, versets 1 à 11. Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 11. La dernière fois que j'ai eu le privilège de prêcher, on a parlé de la moitié de cette section, c'était versets 1 à 4. Et on peut donc considérer ceci comme une deuxième partie du message. On a parlé longuement de ce qu'était l'unité chrétienne et pourquoi elle doit être précédée de beaucoup d'humilité. Et le thème principal de ce jour-là était tout simplement « Soyez plus humble en tant que chrétien ». Mais dans les versets 5 à 11, l'apôtre Paul poursuit son commandement d'être humble en montrant l'exemple suprême d'humilité. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Notre section aujourd'hui concerne non pas seulement le commandement, mais l'exemple à suivre. Donc, lisons ensemble à partir du verset 1 du chapitre 2 jusqu'au verset 11. S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée, à un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Prions encore une fois. Merci, notre Dieu, pour ta parole. Merci pour tes promesses dans ta parole. Parle aujourd'hui, parle à nous, enseigne-nous, parle envers moi, malgré ma faiblesse, parle forcément aujourd'hui. On t'attend, mon Dieu. On est ici pour toi. Et pour ta parole. Amen.
Amen, amen.
Il y a quelques mois maintenant, lorsque j'ai prêché la première partie de ce message, on a conclu que Dieu désire avant tout qu'une église soit unifiée dans ses pensées et ses actions, dans sa doctrine et sa pratique. Ça veut dire l'orthodoxie et orthopraxie, les bonnes doctrines et les bonnes actions. Mais avant de pouvoir être unifié, on doit être humble. Il faut se soumettre à nos frères et sœurs et les considérer non seulement comme aussi importants que nous, mais comme plus importants. En d'autres termes, notre humilité dépend de notre reconnaissance du fait que nous sommes les personnes les moins importantes de notre vie. Aujourd'hui, on verra qu'il y a un revers à cette pièce. L'humilité consiste pas seulement à s'abaisser, mais aussi à élever Jésus. Ainsi, au vu de notre passage, comment Jésus a-t-il fait preuve d'humilité? Je pense que ce court texte nous donne une sorte d'image en escalier de la manière dont Jésus s'est pratiquement abaissé. On commence au plus haut niveau, au verset 6. Jésus, étant Dieu, de la même substance, 100% Dieu, n'a pas envisagé, pendant qu'il était sur terre, d'exercer ses droits en tant que Dieu. Il n'a pas mis de côté sa divinité, mais il a mis de côté ses privilèges pour prendre sur lui les limites de l'humanité. Sur l'étape suivante, au verset 7, non seulement il a renoncé à ses droits divins et adopté la fragilité humaine, mais il est devenu un faible humain, un esclave. Plus bas encore, au verset 8, non seulement notre Seigneur et Maître a renoncé à ses droits et est devenu comme le plus humble d'entre nous, mais il est aussi mort sur terre. Il a été tué par sa propre création, mais pas seulement tué. Il a été tué de la manière la plus ignoble. La crucifixion était un châtiment et une mort si humiliant que Rome, le pouvoir de Rome, ne permettait pas aux citoyens romains d'être exécutés de cette manière. Et ce n'est pas explicitement dans notre texte, mais l'imagerie de cette descente est toujours présente dans l'Écriture et fait écho au symbole des apôtres lorsque nous confessons que Jésus est descendu encore plus bas dans l'Hadès, ou le lieu des morts. Dieu, qui a créé l'univers et tout ce qu'il contient, a été si humble qu'il est descendu à l'endroit qui était seulement nécessaire après que sa propre création se soit rébellée contre lui et a introduit la mort dans sa création parfaite. Et Paul dit, l'Esprit Saint dit, que c'est ce que nous sommes censés penser lorsque nous considérons notre propre humilité. Verset 5, il dit « Ayant en vous la pensée qui était en Christ Jésus. » Et je dois admettre qu'il m'arrive souvent de ne pas avoir cette attitude. Une petite confession de péché. J'ai été torturé pendant des années par mon orgueil. Bien que j'ai reconnu ce péché en moi depuis longtemps, il me tourmente encore constamment. D'une certaine manière, je me suis permis de croire que j'avais les qualifications nécessaires pour être pris au sérieux. Je me suis dit que j'avais suivi des années de formation, que j'avais fait des apprentissages et des stages, que j'avais des bouts de papier sur mon mur qui prouvaient que je savais quelque chose. Et que maintenant les gens devaient m'écouter parce que je savais de quoi je parlais. Mais ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne. En fait, pas la vie chrétienne. En vérité, la mamie ou le papy, sans formation formelle, qui prie et lit sa Bible 10 heures par jour, est une meilleure chrétienne que je ne pourrais jamais espérer être. Et si j'ai de la chance, peut-être qu'il m'apprendra quelque chose. Mais dans mon cœur, dans mon pécheresse, ce n'est pas juste. Je consacre du temps et du travail à cette tâche. C'est mon droit que les gens me prennent au sérieux et écoutent ce que j'ai à dire. Mais cette attitude est un péché. Il se peut aussi que vous ayez fait plus d'efforts au travail et que vous soyez le meilleur employé, mais que le patron vous oublie encore pour une promotion. Ou vous avez peut-être travaillé pendant de longues années et payé tous vos impôts en tant que citoyen modèle de la République, et à quelques mois de la retraite, mais notre premier ministre sort son cher 49-3 et repousse vos projets de 2 années supplémentaires. Mais vous avez travaillé dur pour obtenir cette promotion. Ce n'est pas juste. Vous avez mérité votre retraite. C'est votre droit. Mais aussi, comme ma lutte avec orgueil, cette attitude est un péché. Verset 5 encore. « Ayant-vous la pensée qui était en Christ Jésus ?» Notre Seigneur Jésus a tous les droits. Et pourtant, il s'est abaissé plus bas qu'aucun d'entre nous ne serait prêt à le faire. Il était nécessaire que Christ vive la vie qu'il a menée et meure de la façon dont il a fait afin d'assurer notre salut. Dans le but de servir les pécheurs indignes que nous sommes, Dieu fait chair à endurer une vie difficile et ridicule et est mort d'une mort cruelle. On lui devait bien plus encore. Et c'est de cette manière que le Seigneur veut nous faire penser à la charité chrétienne et à l'humilité. C'est une question de droit, bien sûr, mais non pas les droits que vous avez, on a, mais les droits que vous êtes prêts à abandonner pour servir les autres. La Déclaration d'indépendance américaine contient une phrase très célèbre pour les Américains qui dit que tous les hommes, y compris les Français, bien sûr, mais tous les hommes ont droit à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur. Et c'est un beau sentiment qui n'est pas forcément biblique, mais souvent nous gouvernons nos vies autour de cet idéal de droit et de liberté personnelle. Mais au service du Christ, seriez-vous prêt à renoncer à votre bonheur ou à votre liberté ou même à votre vie pour les autres? Rappelez-vous qui écrit cette lettre aux Philippiens. C'était Paul, l'apôtre Paul. Et il était un membre accompli de la classe religieuse. Il était un artisan suffisamment compétent pour gagner sa vie en vendant ses produits, ses tentes. Il était un orateur éduqué et dynamique à une époque où la rhétorique était très appréciée et presque nécessaire. Et il était un citoyen romain. Et pourtant, maintenant, il croupit dans une prison pour avoir dit des choses offensantes pour le pouvoir en place en Rome. Si quelqu'un avait des droits, c'était bien l'apôtre Paul. Et il les a mis de côté pour servir notre Seigneur. Si on pense qu'on a le droit d'être aimé, honoré ou traité avec respect, rappelez-vous que Christ a dit: si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. C'était en Jean 15. Jésus est descendu des plus hauts sommets jusqu'aux plus basses profondeurs. On doit être prêt à suivre Christ jusqu'au fond. Mais la bonne nouvelle, c'est que ni notre Seigneur, ni nous n'étions destinés à être laissés dans une situation aussi basse. Jésus s'est dépouillé de ses droits de Dieu et devenu un homme, mais pas seulement un homme, un esclave. Puis il est mort, mais pas seulement mort, il est mort d'une mort atroce sur la croix pour notre bien. Et il est ensuite descendu dans le lieu des morts, un lieu créé uniquement à cause du péché de l'homme. Et puis, verset 9 de notre texte, « Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » On sait que la croix n'était pas en plein de secours, mais qu'il a toujours été dans l'intention de Dieu d'écraser son Fils pour les péchés de son peuple. Et c'est ce sacrifice qui a rendu la glorification de Christ si merveilleuse. Jésus a été ressuscité d'entre les morts. Non seulement ressuscité, mais ressuscité pour ne plus jamais mourir. Il n'a pas seulement reçu un nom honorable, mais le nom qui doit être révéré au-dessus de tous les autres noms. Il n'a pas seulement été couronné roi, mais il a été couronné roi des rois. Jésus qui s'est abaissé sur la terre, est maintenant assis à la droite du Père, gouvernant et régnant sur sa création. Et un jour, tous les êtres créés reconnaîtront sa gloire et lui rendront la louange due à son nom. De même, dans notre humilité, nous devons imiter Jésus. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Jésus n'a cherché à plaire qu'à son Père, et il a été élevé pour cela. L'humilité devant Dieu apporte l'exaltation de Dieu. Peut-être pas dans cette vie, mais sûrement dans la suivante. On ne peut pas dire comme les Mormons, les Mormons qui nous deviendront comme Jésus et que nous devrions chacun un petit Dieu. C'est une hérésie, bien sûr, mais il nous relèvera de notre position désespérée et nous amènera à la gloire avec lui dans son royaume. Il ne s'agit pas d'un sentiment de bien-être ou d'un évangile de prospérité, parce que Dieu promet que ceux qui se soumettent et s'abaissent seront élevés. Quelques versets. Matthieu 5, verset 3. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Matthieu 20, 16. « Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » 1 Pierre 5. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. » Et Jacques 4, verset 10. « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Quelle promesse, quelle belle promesse. Ce n'est pas faire preuve d'orgueil ou d'arrogance que de s'attendre à ce que Dieu tienne ses promesses. Regardez son Fils, regardez ce qu'il a fait pour Christ. Tout à l'heure, j'ai mentionné ce motif d'escalier de la descente du Christ et de son ascension finale. L'un des endroits de la Bible où ce même modèle est le plus clair pour l'homme est Romains 8, 29 à 30. Et il dit cela. Car ce qu'il a connu d'avance, en étape, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Connu d'avance, prédestiné. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Encore quelle belle promesse à laquelle s'accrocher. Mais dans quel but ces promesses nous ont-elles été données? Pas pour notre propre bénéfice, mais pour le sien, pour Jésus. Notre abaissement a pour but l'exaltation de Christ. Verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nos vies devraient être dépensées pour que cela se produise. On doit faire tout ce qui est en notre pouvoir pour s'aplatir afin de le rendre plus célèbre. Il ne s'agit pas de plaire aux gens ou d'essayer de se mesurer à ce que les autres considèrent comme le bon christianisme. On ne se prive pas comme des ascétiques ou des moines pour que le monde nous considère comme des humbles. C'est le désir de notre cœur de plaire au Seigneur. Dans l'Empire byzantin, certains moines, ils s'appelaient les stylites, mais ils s'isolaient au sommet de hauts piliers, s'exposant aux éléments et se privant de tout confort afin de se rapprocher de Dieu et de devenir plus humble. Le premier de ces moines était un homme nommé Siméon. Et il a vécu sur un pilier pendant 36 ans. Près d'Alep, en Syrie, d'Aleppo. Les églises catholiques et orthodoxes lui ont depuis conféré la sainteté, bien sûr. Certains ont regardé Ces hommes se sont dit, quelle humilité! Quelle humilité ils ont dû avoir pour vivre toute leur vie dans le manque de confort afin de servir Jésus. Mais non, pas du tout. Ils se sont littéralement mis sur un piédestal. Au lieu d'être humbles, ils se sont exhibés devant d'autres personnes en jouant la comédie de l'humilité. Ils se sont littéralement élevés au lieu de s'humilier dans la simple obéissance à l'appel de Christ. L'humilité est peut-être l'un des commandements les plus élémentaires de Christ. Et pourtant, nous nous y trompons régulièrement. Matthieu 6, verset 5, un exemple. C'est Jésus qui parle. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, les orgueilleux, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, ou sur un pilier, pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. On ne peut pas s'en empêcher. Même en matière de prière, il faut se rappeler qu'elle n'est destinée à personne d'autre qu'au Seigneur. Si, comme on l'a vu la dernière fois que j'ai prêché, notre charité et notre unité chrétienne doivent être précédées par l'humilité, notre humilité doit à son tour être précédée d'un véritable souci d'obéissance au Seigneur et non pas dans souci de notre propre apparence extérieure. En tant que disciples de Christ, la seule chose qui nous préoccupe, c'est Christ lui-même. Le Christ suprême a reçu l'autorité suprême et il exige la soumission suprême, ce qui implique une confession suprême. C'est verset 11 de notre texte. Christ est Seigneur et sa Seigneurie est la raison pour laquelle nous le suivons et le servons humblement. Un prédicateur a appelé ces versets, versets 1 à 11, un appel élevé à une vie basse ou à une vie humble. Et je pense que c'est une description très appropriée du message de l'apôtre ici. Et je crois que c'est probablement la façon la plus succincte de résumer ces quelques versets qu'on a étudiés aujourd'hui. Le verset 5 est un ordre direct d'imiter le comportement de notre Seigneur lorsqu'il était sur terre. C'était la plus haute responsabilité qui puisse nous être donnée, être comme Jésus. Mais au lieu d'exiger que nous allions au combat ou que nous crions à tous les passants pourquoi ils devraient se prosterner et l'adorer, nous sommes au contraire appelés à imiter son humilité, son abaissement. Pour conclure, je prie pour que vous réfléchissiez vous aussi aujourd'hui à la manière dont vous pouvez personnellement imiter Jésus dans son humilité, afin de l'honorer. Et rappelez-vous que, quel que soit le résultat final de notre vie, il sera élevé et son nom sera connu et révéré par toute créature, vivante ou non. Prions encore une fois. Merci, mon Dieu, pour qui tu es. Merci pour ta bienveillance, pour ta miséricorde, pour ta grâce. Et merci aussi pour ton pouvoir, pour ta puissance, ton main qui nous dirige. Merci pour ta parole qui nous enseigne. Sois avec nous cette semaine. Crée en nous un cœur d'humilité, un cœur qui est prêt à te servir. Encore une fois, sois avec nous. Merci pour la croix, merci pour Jésus et ta sacrifice. Amen. Amen. Amen.